bans. C'est ce qui se passe aux États-Unis avec Trump, c'est le fait d'interdire les livres, notamment sur le climat, le féminisme, enfin, en référence aussi à toute la liste des mots qu'il a interdit.
Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous accueillir dans un nouvel épisode de Zoom Zoom Zen, 2 heures chaque après-midi pour décrypter notre époque à travers ses mots, ses expressions. Et aujourd'hui une expression américaine qui revient de plus en plus souvent outre-Atlantique, car le phénomène prend des proportions inquiétantes depuis le retour au pouvoir de Donald Trump, le phénomène book bans, ou quand l'administration décide de censurer les ouvrages jugés trop progressistes ou relayant une pensée trop woke. Des milliers de livres ont ainsi purement et simplement disparu des écoles américaines ces 3 dernières années. Alors évidemment, comme dirait Cyril, notre rédacteur en chef MAGA, un peu de censure pour remettre les gauchistes à leur place de temps en temps, ça fait du bien. Cyril se souvient notamment de ce qu'il appelle la belle époque et que les historiens appellent, eux, le McCarthyisme. Il était stagiaire au FBI et il prenait beaucoup de plaisir à débusquer les communistes. C'était facile, c'était tous les gens qui n'accrochaient pas de petits drapeaux américains à leur maison. Ah, ça, il en a flingué du coco. Alors oui, c'est vrai, pour faire du chiffre, il lui est arrivé de planquer lui-même une faucille et un marteau dans la valise d'un quidam pour le prendre en flagrant délit de marxisme-léninisme. Mais voilà, face au péril rouge, il faut parfois savoir sévir. C'est ce que semble faire Donald Trump avec ses milliers de livres retirés des écoles. Alors, quels sont ces ouvrages? Peut-on parler de guerre culturelle? Quels auteurs sont menacés? Et est-ce que les petits Américains pourront lire l'excellente BD de notre camarade Marie Debreuer, une BD qui parle de cul? Ah, visiblement non. Zoom zoom, pas très zen, c'est parti.
Inter. Zoom zoom zen. Mathieu Noël.
Et bonjour Ludivine Gilly.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Inter cet après-midi. Vous êtes historienne, spécialiste des États-Unis, directrice de l'Observatoire de l'Amérique du Nord à la Fondation Jean Jaurès. Plus de 10 000 livres bannis des bibliothèques scolaires aux États-Unis depuis l'arrivée de Trump. C'est ce qu'on appelle un book ban, des livres mais aussi des mots interdits. On va le voir, qu'est-ce que ça dit des États-Unis, jusqu'où peut aller cette dérive? C'est ce qu'on va voir ensemble. Juste le temps de vous présenter mes joyeux collègues, à commencer par celui dont les œuvres littéraires ne sont pas menacées par le book ban. Au contraire, Donald Trump a personnellement signé un décret stipulant que le dernier best-seller de Quentin, lui, How to Fraud the Fisc and Be a Winner, soit étudié dans chaque école publique dès le primaire. Bonjour oui. Quentin.
Bonjour, bonjour à tous, je suis très heureux de ça.
Évidemment, chaque matin, armé de votre petit micro et de votre grand bagout, vous partez à la rencontre des gens, ce qui d'ailleurs force toujours l'admiration de Cyril, notre rédac-chef qui déteste les gens, et vous les faites réagir à notre expression. Oui. Alors, ce book bans, ça leur inspire quoi?
Eh bien, c'est aux abords d'une librairie que je suis venu discuter dans la rue de cette actualité, cette décision de notre époque. Qu'est-ce qu'elle inspire aux gens, cette actualité? De l'aberration, de la peur, une forme de résistance aussi. On parle de l'interdiction des livres dans ce micro-trottoir complètement à la rue Mathieu.
À vos côtés, Ludivine, elle est profondément outrée de ce qui se passe outre-Atlantique. Elle adore lire. Parmi ses derniers coups de cœur, on citera Passion Cocktail, 30 recettes pour réenchanter vos mojitos, le Lonely Planet Amsterdam en 3 jours, et bien sûr, ça c'est sa lecture la plus récente, J'ai pas dit mon dernier mot, d'Éric Zemmour, émoji clin d'œil. Bonjour, bonjour Manon Mariani.
Ça ne rentre pas chez moi ce genre de livre. Bonjour, bonjour à tous. Non, par contre, j'ai lu le livre de Nicolas Demorand. Voilà.
Ah, un excellent livre.
Et de Marie Debreuer.
Ah, les deux.
On fait de la pub aux collègues.
Oui. Intérieur nuit, c'est ça?
Intérieur nuit, c'est vrai. Je ne sais pas où il est allé chercher ce titre.
Ouais. J'écoutais pas le disque en même temps, par contre.
Manon, vous nous brosserez le portrait de l'autre personne à suivre sur notre thème du jour.
Oui, une romancière américaine qui a ouvert une librairie où elle vend des livres bannis. Elle est en plus en Floride, un des États les plus conservateurs des États-Unis.
Vers 16h30, le Zoom Zoom Test sera consacré aux cas les plus choquants de censure, des censures qui, avec le recul, nous semblent aujourd'hui absolument grotesques, de la Chine de Mao, qui avait censuré Alice au Pays des Merveilles, jusqu'à, évidemment, France Inter, qui avait censuré le Zoom Zoom Zinc, petit ange radiophonique parti trop vite. Juste avant 17h, n'appelez pas pour demander si Tania Dutel a entamé un traitement aux hormones. Non, c'est juste qu'en ce mois de mai, elle est remplacée par Harold Barbet. C'est très différent vocalement. Après 17h, restez avec nous, on vous emmène dans les coulisses de l'Elysée avec notre invité qui suit Macron depuis 2017. Des coulisses, vous verrez, de plus en plus vides. Mais d'abord, nos book bans. Ludivine Gilly, j'employais cette expression dans ma petite introduction. Est-ce que Trump s'est lancé dans ce qu'on pourrait effectivement appeler une guerre culturelle aux États-Unis?
Oui. Vous avez une autre question?
c'est sciemment qu'il le fait ou il le fait comme... On sait qu'il allume des feux un peu à droite et à gauche pour occuper l'actualité. C'est vraiment quelque chose qui lui tient à cœur? Il veut balayer le wokisme?
Parce qu'il est toujours difficile de savoir ce que veut Donald Trump. Ce qu'on peut constater, c'est que son administration s'est lancée dans une guerre culturelle et s'était inscrit notamment sous ces mots-là. Guerre culturelle, culture war.
Ah, c'est assumé.
Cultural warriors dans le projet 2025.
Ah oui, le fameux.
Préparé, le fameux de la fondation Heritage. Kovacevic.
En psychiatrie, on appelle ça un transfert narratif. On a tellement raconté ici qu'il avait été agent du FBI que désormais il est lui-même persuadé d'avoir été agent au FBI. Il s'est même mis à l'hypnose pour essayer de recouvrir le souvenir de ce qu'il avait fait entre 2001 et 2007, ce trou noir dans sa vie. Son thérapeute lui a conseillé de jouer le thème de James Bond à la flûte à bec, ce qu'il a fait dans les couloirs de France Inter, compromettant ses chances d'en devenir un jour le directeur des programmes. Bonjour Cyril.
Non, méfiez-vous. Sachez que la directrice de France Inter aime beaucoup quand je lui joue de la flûte à bec.
Ah, Adèle Vendrette,
elle apprécie particulièrement ces moments-là.
Et là, c'est ce qu'elle préfère dans votre travail, c'est ça le problème.
Pas que, mais elle aime bien ça. Bien.
Alors, dites-nous Cyril, vous qui étiez cul et chemise avec McCarthy, les book bans, d'où ça sort?
C'est une vieille histoire d'interdire les bouquins. À une époque, on ne se contentait pas de les interdire, on les brûlait. À l'Antiquité, ça y allait d'ailleurs en grand feu de joie. Il se dit que le tout premier autodafé se serait produit en Grèce 5 siècles avant Jésus-Christ, notre sauveur. Il concernerait Traité sur les dieux de Protagoras. Sa faute, avoir commencé son livre par cette phrase « Des dieux, je ne puis savoir ni qu'ils existent, ni qu'ils n'existent pas ». Ce qu'on appelle une erreur stratégique majeure. Il a été obligé de quitter Athènes et son livre aurait été brûlé sur la place publique. Une pratique qui s'est accélérée ensuite du côté de Rome, où les autorités brûlaient à peu près tout ce qui leur semblait subversif et leur vision du subversif était, disons, assez large. Même si, comme en Grèce, ça avait souvent un rapport avec le divin. Comme si le fait de brûler le livre allait faire disparaître les idées. Brûler, c'était une manière de purifier la société. C'est revenu au Moyen-Âge, là encore, c'était l'Église qui était à la manœuvre. Et puis, évidemment, sous le régime nazi en Allemagne, d'innombrables ouvrages ont été brûlés, une mise au pas culturelle.
Un livre a d'ailleurs évoqué une société où tous les livres étaient brûlés.
Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, sorti en 1953, une société où les livres sont interdits et quand on en trouve, hop, au feu. Et puis on brûle aussi la maison de celui qui possède le livre. Alors, on n'en est pas encore là aux États-Unis, mais les directives de l'administration Trump ont de quoi inquiéter. Comparaison n'est pas raison, mais ça ressemble là aussi bien à une mise au pas culturelle, une guerre culturelle, vous avez commencé à nous le dire. Figurez-vous que dans certains États, même Harry Potter est contesté. Alors, qu'est-ce que ça raconte de ce que nous vivons aujourd'hui, ce book bans? Est-ce qu'on va bientôt assister à de nouveaux autodafés? Comment défendre les livres? Qui décide de ce qu'on peut lire ou de ce qu'on ne peut pas lire? Et en France, où en sommes-nous? C'est ce qu'on va voir durant une heure.
Merci Cyril. Ludivine Gilly, quels sont les livres, quel genre de livres sont aujourd'hui mis à l'index concrètement aux États-Unis?
C'est à peu près toujours le même genre de livre. En fait, y compris historiquement, quand on regarde, on a 3 grands sujets. On a les questions religieuses, les questions politiques et les questions morales. Et actuellement, on retrouve principalement les questions morales, dans lesquelles les conservateurs, les ultra-conservateurs vont mettre tous les sujets LGBT, tout ce qui concerne de près ou de loin le sexe, et également toute une vision de la société qui n'est pas perçue comme étant valorisée par les conservateurs.
Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour, on imagine, on est aux États-Unis aujourd'hui, ces livres, on peut pas se les procurer, ils ont disparu des bibliothèques scolaires ou ils ont disparu des librairies
Quand on parle de book bans, en fait, ça couvre une large diversité de situations. Il ne s'agit pas d'une censure où des livres vont être introuvables dans le pays. C'est pas de ça qu'on parle. En revanche, ça va concerner certains États plus que d'autres. Ça va concerner des districts scolaires avec le rôle clé des commissions scolaires. Ça va concerner également des bibliothèques municipales.
C'est ça qu'il faut expliquer aux auditeurs, parce que moi-même je l'ai découvert en préparant l'émission, c'est pas Donald Trump qui a décidé livre par livre qu'on allait... et c'est pas uniforme au niveau des États-Unis, c'est par État et c'est avec ces fameuses commissions scolaires.
Un des vecteurs centraux de l'interdiction des livres, de la censure des livres, c'est par le biais des écoles. Et donc, aux États-Unis, bien que Donald Trump ait annoncé son intention de supprimer le ministère de l'Éducation, ça c'est un autre sujet, le ministère de l'Éducation ne décide pas de ce qui est enseigné dans les écoles.
Dans chaque école, il y a une autonomie par école.
Alors, pas par école, mais par district scolaire. Les États, chacun des États a son mot à dire sur ce qui se passe, on pourra y revenir. Il y a des lois dans certains États qui rendent plus difficile l'accès à certains types de livres. Et au-delà de ça, dans certains districts scolaires, vous allez avoir des commissions qui vont estimer qu'elles ont le mandat d'empêcher les
commissions. Oui.
Alors, ce sont des commissions. Nous sommes aux États-Unis, donc les membres des commissions sont élus. Mais ça peut être n'importe qui. Il n'est pas nécessaire d'avoir des qualifications dans le domaine de l'éducation pour être élu. On se présente.
Dans une commission comme ça.
Et si on a davantage de votes que le concurrent, on est élu à la commission scolaire.
Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël. Sur France Inter.
Des universités menacées et des bibliothèques scolaires qui se vident aux États-Unis en cause la dangerosité de certains livres jugés trop woke par l'administration Trump, mais pas que. Zoom cet après-midi sur le phénomène du book bans. L'historienne spécialiste des États-Unis et directrice de l'Observatoire de l'Amérique du Nord à la Fondation Jean Jaurès, Ludivine Gilly, est toujours avec nous. Ludivine, je lisais une statistique, le nombre d'auteurs visés par la censure aux États-Unis a augmenté de 65% depuis 2 ans. On est donc avant le retour de Trump aux affaires. C'est un phénomène qui est antérieur à Donald Trump.
Oui, on a eu une croissance post-Covid, en fait, une croissance exponentielle. On a atteint des niveaux jamais atteints auparavant. Mais, en bonne historienne, ça n'est pas un phénomène nouveau. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui existe. Alors, qui a existé, le premier livre interdit aux États-Unis, c'est dans les années 1640.
D'accord.
Mais c'est un phénomène qui connaît à peu près les mêmes ressorts aux États-Unis depuis environ un siècle. Dans les années 20, c'était ce qu'on appelait le DAR, les filles de la Révolution américaine, une organisation très conservatrice, qui a commencé à s'intéresser à cette question-là et qui est responsable de l'interdiction d'un certain nombre de livres des années 20 aux années 50. On a eu une autre initiative dans les années 60. On a eu une nouvelle initiative dans les années 70. La semaine pour protéger les livres, la semaine sur la censure des livres, elle a été créée aux États-Unis en 1982.
Ah oui, donc c'est un très vieux problème,
voilà,
qui s'amplifie.
Mais simplement, les niveaux qu'on connaît aujourd'hui n'ont jamais été atteints auparavant.
Est-ce qu'il n'y a pas un effet contre-productif ? Moi, je me mets à la place d'un étudiant américain. Si on me dit qu'un livre est interdit...
J'ai envie de le lire.
Évidemment, je vais vouloir aller le voir. Est-ce qu'on sait si les étudiants respectent ?
Alors, on n'a pas forcément de chiffres là-dessus. Il faut penser aussi au fait que les interdictions de livres touchent... Alors, on parlait des bibliothèques municipales. Dans les écoles, ça touche tous les niveaux. Depuis le jardin d'enfants jusqu'à l'université. D'ailleurs, une des dernières occurrences d'interdiction de livres, c'est à l'école navale des États-Unis.
Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'on a interdit ?
Ils ont interdit 381 ouvrages, dont des ouvrages sur le féminisme et son histoire, sur les relations raciales et leur histoire, les droits civiques. Il y a un ouvrage, par exemple, écrit par une récente candidate démocrate au poste de gouverneur de Géorgie, qui a été interdit.
Mais on leur signale ça à l'université ? On reçoit un mail en disant il n'y aura plus ces livres disponibles ou comment
La
ça
liste
se passe
a été publiée par l'école. Et elle a été rendue publique par de nombreux journaux. Je l'ai ici, cette liste.
Et qu'est-ce qui est le plus censuré ? Ce sont des livres, un livre précisément, ou les auteurs de livres, certains auteurs qui sont ciblés ?
On a les deux, en fait. On a certains livres spécifiques qui collectionnent les interdictions, parce que vous avez des listes de livres et d'auteurs peu recommandables au dire de ceux qui souhaitent les interdire qui circulent. Et vous avez également des sujets. La liste interdite à l'école navale, par exemple, on voit bien les mots-clés qui sont ciblés. Race, feminism... Civil rights, donc on voit très bien sexe, on voit très bien les types de sujets. Mais certains auteurs ou certains titres en particulier sont également spécifiquement visés.
On parle souvent de l'association entre guillemets Mums for Liberty quand on lit sur les book bans. Quelle est cette association ?
Eh bien, c'est l'association qui est responsable de la fameuse augmentation drastique des interdictions de livres ces dernières années. C'est une association qui s'est formellement créée en 2021, qui a émergé pendant la Covid. Pourquoi ? Parce qu'elle a émergé, elle a été créée par 3 mères de famille, en tout cas qui se présentent comme telles, ultra-conservatrices de Floride. Et elles se sont mobilisées d'abord contre les mesures de confinement et d'obligation de port du masque. Et ensuite, l'une d'elles a eu le malheur de perdre une élection à l'une de ses commissions scolaires. Et elles se sont lancées dans une croisade. Elles ont aujourd'hui environ 130 000 membres aux États-Unis.
Ah oui.
Ah oui, c'est devenu énorme très vite. Et donc, elles sont aussi une sorte de relais pour quelqu'un comme Donald Trump, pour relayer ces...
Tout à fait. Et elles ont bénéficié elles-mêmes de relais dans de nombreux talk-shows ou émissions télé... ultra-conservateur ou conservateur aux États-Unis.
Lui, dans sa vie, il n'a lu que deux livres, Le Petit Chaperon Rouge et L'Art du Deal de Donald Trump. Sa Bible, dans laquelle il se replonge très souvent afin de comprendre l'échec de son projet de tasse musicale Lucy Gallou. Quentin...
Échec.
Et c'est un échec.
On n'a pas encore lancé la production, c'est tout.
Même
c'est...
pas de prototype.
Même pas de prototype. On n'a jamais eu de prototype.
Et chez moi.
Quentin, vous êtes allé parler de ce phénomène du book ban avec les passants. C'est quelque chose qui les inquiète, qui les sidère.
C'est ce que j'ai voulu vérifier. Je déambule dans la ville et je me dirige vers une librairie du quartier République. Devant le Palais des Glaces, je rencontre Simon et Lou, la vingtaine. Ils découvrent le thème du jour de Zoom Zoom Zen.
Book bans. Bans, c'est bannir, non ? Je sais pas, c'est la censure des livres.
A lieu aux États-Unis depuis des mois. Cette censure s'inscrit dans ce que l'on pourrait appeler une guerre culturelle.
Ouais, bah, c'est n'importe quoi. C'est pas normal de faire ça, ça devrait pas être possible, en fait.
Gardons cette conclusion, Lou. C'est n'importe.
C'est nimp. Oui, c'est nimp.
Bah oui, c'est nimp, cette Gen Z. Cette jeune femme, maintenant, regarde des cartes postales qui semblent dessinées à la main sur un présentoir qui tourne. Faisons connaissance, bonjour.
Bonjour, je m'appelle Blandine, j'ai 28 ans et je travaille à la fondation Good Planet.
Good Planet ?
Ouais.
Ah, mais c'est dans le bois de Boulogne, ça ?
Oui, exactement.
C'est Yann Arthus-Bertrand ?
Oui, exactement.
Alors, a-t-elle vu passer le concept qu'on décortique aujourd'hui ?
Book bans. C'est ce qui se passe aux États-Unis avec Trump, c'est le fait d'interdire les livres, notamment sur le climat, le féminisme, enfin, en référence aussi à toute la liste des mots qu'il a interdits. Enfin, ça fait très clairement référence à l'obscurantisme, donc à plusieurs périodes de l'histoire, on a pu observer ça. On a observé ça pendant la Seconde Guerre mondiale. Avec le fascisme, on a observé ça aussi à une période d'obscurantisme par l'Église, plus au XIVe siècle, je crois, à peu près. Donc c'est jamais bon signe, enfin, c'est jamais les personnes du bon côté de l'histoire qui interdisent les livres.
J'entre désormais dans la librairie, une odeur de livres neufs et le calme qui fait immédiatement oublier le bruit de la ville. Je tombe sur cet homme, barbe grisonnante, lunettes et t-shirt à poche, avec une petite moto brodée dessus.
Bonjour Christophe, 52 ans de la librairie des nouveautés dans le 10e.
Vous allez bien ?
Très bien, la forme.
J'arrive un peu au moment de la pause-déj.
Exactement, on va s'en sortir, dites-moi.
Et on s'en est sorti, quel regard porte-t-il le libraire sur ça ?
Book bans. Oui, alors donc tous ces ouvrages qui sont bannis par toute l'équipe de Trump, qu'on n'a pas encore, heureusement, en France. En France, on a encore cette idée terre de liberté. Ensuite... Il y a des choses qui sont en train de changer en France dans les maisons d'édition aussi. Hein. Donc on va voir comment ça évolue aussi, tout doucement. Mais,
il faudrait être vigilant.
Oui, ouais, je pense qu'il faut être vigilant pour les libraires et pour aussi les personnes qui vont acheter les ouvrages en fonction des maisons d'édition. Je ne vais pas en dire plus, mais vous allez voir par la suite ce que ça peut donner. Voilà.
On verra. Donc, je lui montre des titres désormais interdits aux États-Unis. On parle de 4000 livres censurés dans les cursus scolaires et les bibliothèques publiques.
Donc le journal d'Anne Frank, d'accord, on est sur la Seconde Guerre mondiale, bien entendu.
Eux disent que c'est concernant les passages de la découverte de soi, du corps, etc.
Ok, mais bon, oui, mais ça permet en fait d'éliminer une grosse partie du sujet aussi qui est plus important. Il faudrait peut-être qu'il aille voir la maison d'Anne Frank à Amsterdam, ça lui ferait du bien. À Monsieur Trump, Servants écarlates aussi, là vous êtes sur un sujet aussi en rapport avec le corps des femmes et ensuite la mise en place aussi d'un pouvoir autoritaire. Donc voilà, comme 1984, le meilleur des mondes. C'est marrant, c'est que des sujets, les premiers titres, c'est quand même des sujets qui sont représentatifs de la politique que met en place Trump.
Je ressors en réfléchissant à tout ce que me dit Christophe et je tombe nez à nez avec Axel, la trentaine en plein déjeuner. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, à part manger
une quiche lorraine.
Une quiche lorraine.
Je suis agent d'artiste contemporain.
Dernière réaction sur...
Book bans. C'est l'interdiction d'un livre. L'interdiction de livres. Ce que j'en pense, c'est effrayant, ça fait peur. Et ça évoque des romans dystopiques, justement, en parlant de livres.
1984
À 1984 d'Orwell, oui. Et aussi à ce film, ce livre, c'est un film, Fahrenheit 451.
De Truffaut.
De Truffaut, exactement. C'est l'histoire d'une société dystopique où tous les livres sont interdits. Et la température du titre évoque la température à laquelle un livre ou le papier brûle. Voilà, ça m'évoque aussi la pièce de Thiago Rodriguez, qui est une pièce qui parle de l'importance d'apprendre les choses par cœur, d'apprendre des livres par cœur. Pourquoi pas quand on y pense comme solution justement à cette disparition matérielle de certaines histoires.
Aberrant, sidérant, mais finalement pas si surprenant que ça venant des États-Unis d'aujourd'hui. On se fait un peu anesthésier aussi par Trump, tant on a d'infos à digérer. Alors la liberté qu'on trouve dans certains livres devra peut-être s'apprendre par cœur avant que la pensée ne devienne peut-être qu'une rumeur.
Monsieur Renou avec les rimes de fin.
Des rimes riches.
Magnifique.
Elle était belle.
Ludivine Gilly, je reviens sur la réaction de ce libraire. Et c'est vrai, ça, les livres interdits comme 1984, ils dénoncent un totalitarisme qui peut-être est en train d'arriver dans un pays comme les États-Unis.
C'est en tout cas un des aspects préoccupants. On parlait tout à l'heure de la guerre culturelle. Ce que met en place l'administration Trump, alors elle met beaucoup de choses en place, mais sur ce plan-là, c'est une remise en cause de la pensée, de l'accès à la pensée. C'est une réécriture de l'histoire. Ce qu'on disait, c'est que on parle de censure des livres. Alors encore une fois, tous les livres dont on parle ne sont pas interdits d'accès aux États-Unis. Simplement,
pour le moment, peut-être.
Pour le moment. Mais l'accès en est rendu plus difficile à de nombreuses personnes, et probablement celles qui en auraient le plus besoin. Et au-delà de ça, on a également toute l'information qui est filtrée ou qui est retirée et qui était publique auparavant. Et en cela, je pense à tous les sites internet que l'administration Trump a purgés. Alors certains ont été partiellement rétablis depuis, mais un des exemples, c'était le réseau par lequel les esclaves du sud des États-Unis s'échappaient vers le nord avant et pendant la guerre de sécession, l'Underground Railroad. Il y avait une page sur un site internet fédéral qui expliquait le rôle notamment de Harriet Tubman dans ce réseau. Et l'histoire a été un peu réécrite pour rééquilibrer, parce que avoir seulement une femme noire mise en lumière, c'était compliqué quand on parlait d'esclavage, donc il fallait mettre autant de noirs que de blancs. C'est le genre de choses dont on parle aujourd'hui, c'est la réécriture de l'histoire aussi.
Christophe, ce libraire qui nous parle, qui nous dit d'ailleurs, faudra peut-être se méfier à l'avenir en France du côté des éditeurs. Vous êtes d'accord avec ça? Pour lui, il y a une méfiance à avoir pour nous, lecteurs et libraires, autour des éditeurs?
Je pense qu'il y a toujours une méfiance à avoir. Quand on voit ce qui se passe aux États-Unis aujourd'hui n'aurait pas été imaginable il y a 10 ans de cela. Notamment quand on sait la place qu'a le premier amendement aux États-Unis. Et pourtant, c'est en train de se produire et c'est arrivé extrêmement vite. Donc à mon sens, c'est le genre de choses sur lesquelles il faut toujours être prudent.
Manon.
Il y a des livres aussi scientifiques qui sont frappés par cette censure, parce qu'on parle aussi des livres historiques, mais la science, très important.
Tout à fait, la science. Alors dans la science, en bonne historienne, je mets les sciences humaines, mais on a aussi Alors, on parlait des questions de femmes, de féminisme, par exemple. Eh ben, la science, la santé des femmes, par exemple. Je parlais de la liste de livres interdits à l'école navale. On a des ouvrages scientifiques dans la liste.
Mais sur le climat, par exemple, il n'y a rien de sexuel ni d'offensant. Comment on peut interdire un livre qui...
Mais parce que le changement climatique n'existe pas.
C'est une blague des Chinois. Et donc c'est offensant. Enseignez-vous.
Okay, très bien.
Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël. Sur France Inter.
Difficile, les amis, d'évoquer la censure sans parler de la disparition du Zoom Zoom Zinc, évincé de l'antenne pour des prises de position trop subversives, comme en témoigne ce débat du 27 août 2024 sur les claquettes chaussettes.
C'est moche.
Une semaine d'existence, oui, c'était un débat qui était très court. Une semaine d'existence à peine et déjà nous dérangions trop. Nous étions devenus ce caillou dans la Birkenstock de la bien-pensance. Vous savez quoi? C'est comme ça que commencent les dictatures, et ça en 90. Une voix s'était élevée pour le dénoncer.
Vous, ronds de cuir qui êtes derrière vos opéras, derrière vos bureaux, à dépenser le fric des gens. Voilà, il n'y a pas que moi, il y a plein de jeunes compositeurs comme moi, qui sont pas morts, qui sont vivants, et qui ont besoin d'endroits pour qu'on joue leur musique.
Merci Francis, et force à toi. De toute façon, on se voit très vite aux 40 ans de Ghislain Fontana, notre réalisateur anti-vax. En attendant, jouons au Zoom Zoom Test. Un Zoom Zoom Test à la découverte aujourd'hui des censures les plus ridicules de l'histoire. En effet, autant l'interdiction par le Conseil d'État l'année dernière de l'ouvrage polémique « La Marianoche, mes 50 coffee shops préférés d'Amsterdam » pouvait se comprendre, puisqu'elle pervertissait la jeunesse.
Quoi. C'est vrai. Il n'y en a même pas 50 à Amsterdam.
En revanche, dans les cas suivants... En revanche, dans les cas suivants, on peine à comprendre ce qui a pu motiver le législateur. Et nous démarrons ce quiz de ce tour du monde en Chine. Pays qui fera d'ailleurs l'objet du prochain livre de Manon, « Shanghai by Night », mon top 10 des meilleures pipes à opium. Pour tout livre acheté, une pipe offerte.
J'ai eu très peur.
Bernard, son fan, qui aura mal compris l'offre, en a déjà commandé 5. On l'embrasse.
C'est pas
mais restons concentrés, Manon, s'il vous plaît. Restons concentrés, c'est sérieux. D'après vous, Manon Quentin, pourquoi ? Pourquoi le chef-d'œuvre de Lewis Carroll, Alice au Pays des Merveilles, a-t-il été interdit en Chine en 1931 ? Parce que Mao Tse-tung était allergique aux poils de lapin, il a donc fait supprimer toute œuvre qui y faisait référence.
Non.
Ou alors il était hors de question que les animaux parlent aux humains. Ou alors parce que Lewis Carroll bégayait, ce qui était contre-révolutionnaire.
C'est B. J'ai dit avant.
Le bégaiement est contre-révolutionnaire.
Mais oui, c'est ça.
Oui, B. Évidemment. Mais vous l'avez lu. Mais vous l'avez lu dans quoi ? On a une historienne avec nous aujourd'hui. Dans quel ouvrage de référence avez-vous trouvé
pas.
Ça ? C'est la réponse, effectivement, B, hein, de Quentin, lui, effectivement.
Selon
le grand timonier, non, il était indécent de placer les animaux à égalité avec les humains. Une chance qu'Hélène Gâteau ne soit pas née en Chine dans les années 30. Quentin, un mot pour Hélène, votre Hélène ?
Je crois
que le message est bien passé.
C'est pas mon Hélène.
Oui, c'est votre Hélène. La Chine communiste, ne plaisantez donc pas avec la censure. Exactement comme l'Union soviétique à la même période. Nous sommes en 1935 à Moscou. Cyril Lacarrière, qui a infiltré les cœurs de l'armée rouge sous le nom de Kirill Lakharov, tente de saboter le prestige soviétique de l'intérieur en faisant chanter n'importe quoi aux militaires.
Oula.
Notamment Get Lucky des Daft Punk, ce qui prouve une fois de plus, sachant que nous sommes en 35, que mon ami Thomas Bangalter n'est pas né, à quel point Cyril est à la pointe musicalement. Bref, pendant que Lakharov œuvre à la décadence du communisme, Staline, lui, ne sachant plus quoi inventer après le succès du Goulag, décide d'interdire la diffusion des aventures de Sherlock Holmes. Selon vous, pour quelle raison ? Parce que c'est une série qui fait l'apologie du spiritisme et des sciences occultes. Parce qu'on dira ce qu'on voudra, mais il y a quand même une grosse ambiguïté dans la relation Sherlock Holmes-Dr Watson. Ou parce que Sir Arthur Conan Doyle, l'auteur, était un espion russe que Lénine a couvert en le déclarant ennemi du communisme.
B. C. B.
Alors réfléchissons ensemble, Quentin. Arthur Conan Doyle était un espion russe.
Oh, je sais pas, j'en sais rien. J'ai dit ça comme ça, ça me paraissait bizarre.
Comment il nous a
c'est basé sur rien,
fois.
Vous ne l'avez pas nu quelque part
comme tous les jours.
Oui,
Très bien, bonne réponse, effectivement. Vous avez dit quoi, vous, Manon ?
B.
Ah, bonne réponse, deux personnes, donc bravo mes champions, c'était la réponse A. Si Sherlock était plutôt rationaliste, son auteur, Arthur Conan Doyle, était féru de spiritisme et de sciences occultes, convaincu de l'existence des faits et de la possibilité de communiquer avec les morts, un grief qui sera fait à J.K. Rowling et sa série Harry Potter, régulièrement montré du doigt par les milieux conservateurs américains pour son apologie de la sorcellerie, complètement injuste, alors qu'elle est juste transphobe et que ça passe crème, normalement. Et justement, pour la question suivante, direction l'Amérique de 1953. « The only one that I want », dirait Cyril ou Trump. Ce qui, au fond, est la même chose, puisque c'est Cyril qui a écrit le projet 2025.
Mais
nous sommes aux États-Unis en 53, Rosa Parks n'a pas encore fait son intéressante dans le bus, Truman annonce la mise au point de la bombe H, une époque bénie, sous laquelle le livre Robin des Bois sera interdit à l'école dans l'État de Virginie. Mais pour quelle raison ? Parce qu'un blanc qui tire à l'arc, c'est de l'appropriation culturelle des Native Americans ? Parce que Robin des Bois est une pourriture communiste ? Ou parce qu'un gars qui porte des collants est forcément un inverti et les chevaliers de la jaquette n'ont pas leur place dans l'Amérique des années 50 ?
B.
Réponse A, pour vous, un blanc qui tire à l'arc, c'est de l'appropriation. Vous pensez vraiment qu'à l'époque, vous vous souciez de ça ?
Je pense pas.
Ah, ma pauvre, maintenant. C'est la réponse B, oui, effectivement. L'occasion d'écouter...
Le Robin des Bois, je m'en vais par les champs et les bois.
Oui.
Et je chante.
Première diffusion sur France Inter. Oui, les États-Unis au début des années 50, c'est le prime du McCarthyisme, de la peur rouge, et forcément, un gars qui vole aux riches pour redistribuer aux pauvres, c'est pas foufou. Sans compter que dans le Sud, ils sont toujours à la pointe du progrès dès qu'il s'agit de mettre un taquet aux droits fondamentaux. Je parle des États-Unis, bien sûr, Manon, pas d'allusion à votre tonton Thierry Mariani qui sévit en région PACA. C'est pas le genre de la maison.
Ça n'est pas mon oncle.
C'est pas son oncle.
Voilà, merci.
Ça n'a pas été vérifié. Enfin, on reste aux États-Unis, on y est si bien, mais on quitte la littérature pour le 7e art, avec un exemple d'autocensure surprenant dans le film Die Hard, avec Bruce Willis, film culte de ma jeunesse. À un moment du film, il est forcé, par le méchant joué par Jeremy Irons, à se promener dans Harlem avec un panneau « I hate niggers » afin de passer
c'est pas
à la
premier,
télé.
Celui-là.
Non, c'est Die Hard 3.
Ah,
pardon.
Très bien.
Afin de passer à la télé, quelle inscription a été ajoutée in extremis en post-production à la place du fameux « I hate niggers » ?« I hate soul music » I hate Malcolm X ou I hate everyone.
B.
A, c'est A.
C'est A. Et là, Quentin, je sens dans votre regard que vous en êtes sûr.
Oui.
Pour une fois, là.
Là, je suis sûr.
Là, vous en êtes sûr. Eh bien, c'est la mauvaise réponse et personne n'a la bonne.
Ah, c'est la C.
Puisque c'était tristement I hate everyone. C'est beaucoup plus consensuel évidemment que I hate niggers. Et ça marche beaucoup moins bien pour la scène à Harlem. Une anecdote qui rappellera de douloureux souvenirs à Cyril, forcé de se promener dans tout le FBI en portant un panneau. Je ne tire pas sur mon officier instructeur. Vive la liberté d'expression et victoire.
De Quentin. Enfin,
vraiment, victoire de raccro de Quentin, lui.
De raccro,
on peut le dire.
Je ne suis pas
fier de vous.
Ludivine
Gilly, historienne spécialisée des États-Unis, est toujours avec nous. Les États-Unis, où des livres disparaissent par milliers des bibliothèques scolaires. Ludivine, je voyais que les Américains sont encouragés à dénoncer des œuvres qu'ils jugent inappropriées. Il y a un appel à la délation, en fait, et ça participe aussi du phénomène du book bans.
Alors, c'est pas forcément un appel à la délation, mais c'est un mot d'ordre qui circule dans les milieux conservateurs, notamment à l'initiative de l'association dont on parlait tout à l'heure, Moms for Liberty. Elle n'est pas la seule. On a une cinquantaine d'organisations de ce type-là aux États-Unis qui encouragent les parents ou tout citoyen à saisir son élu local, la commission scolaire du district ou d'autres commissions de l'État pour signaler des livres.
Ça peut nous paraître un peu grotesque vu de loin, mais ça n'est pas finalement, on n'est pas à l'abri nous non plus. Il me semble qu'il y a quelques mois, les partisans d'Éric Zemmour infiltraient pas mal d'associations de parents d'élèves pour s'élever contre les nouvelles consignes ou les nouveaux enseignements, notamment sur la vie affective et sexuelle. Je crois que donc on n'est pas à l'abri non plus, quoi. En France.
On voit bien que ce qui se passe aux États-Unis a tendance à inspirer d'autres personnes outre-Atlantique, effectivement.
J'aimerais revenir sur le cas Harry Potter, parce qu'on l'évoque depuis tout à l'heure, qui est aussi menacé. Pour quelles raisons ? Sachant quand même que J.K. Rowling, donc l'autrice, a tenu des propos plus que transphobes sur les réseaux et d'ailleurs en public, elle est plutôt quand même du côté des conservateurs. Donc pourquoi ils veulent interdire ces livres ?
Alors, elle n'est pas forcément du côté des conservateurs, surtout quand on regarde l'ensemble de ses positions politiques. Mais sur la question de Harry Potter, je ne sais pas s'il a été ciblé récemment. J'avais vu des tentatives en 2009 notamment. Ah. On revient aux questions de sorcellerie.
C'est ça qui les dérange, quoi.
C'est ce qui dérange, ce sont les conservateurs tendances religieuses qui ne supportent pas que leurs enfants aient accès à des exemples de sorcellerie.
Quentin.
Dans la liste des livres interdits, il y a l'autobiographie du vice-président J.D. Vance, qui avait été aussi un succès aux États-Unis. Ça veut dire quoi ? C'est pour dire, nous aussi, on peut s'auto-censurer ?
Non, c'est tout simplement que, dans certains cas, les listes en question, elles sont produites par intelligence artificielle à la recherche de mots-clés.
Ah, juste comme ça.
Dans ce livre, il y avait des grossièretés, j'imagine.
Mais dans le livre de J.D. Vance, en fait, il a eu une enfance et une adolescence un peu difficiles. Il est question de drogue, énormément. Donc, on peut voir pourquoi, y compris le livre de J.D. Vance, a été remis en question. Alors, encore une fois, il s'agit de remise en question. Oui. In fine, le livre n'est pas forcément interdit. Mais effectivement, c'est un bon exemple qui montre le ridicule de la situation.
Si les choses continuent comme ça, on parle souvent d'une Amérique coupée en deux. Alors là, entre les États ou les districts scolaires républicains et les districts scolaires plutôt démocrates, il va y avoir deux éducations différentes, des Américains qui vont grandir avec des visions du monde complètement opposées.
Alors ça existe déjà. Ça existe déjà, et si on regarde de manière plus large, on a des États aux États-Unis, je pense à l'Oklahoma, je pense à la Louisiane, où il est question d'enseigner la Bible dans les écoles publiques.
Ah oui, non plus Darwin, c'est fini.
Voilà, non, qui ?
Ah oui, pardon, excusez-moi. Voilà.
Et on a une question devant la Cour suprême actuellement qui consisterait à autoriser la création d'écoles publiques religieuses aux États-Unis.
On en est donc là. Voilà. Vous écoutez France Inter, il est 16h45. L'heure de découvrir, Manon, la personne à suivre. Hier, c'était Benjamin Tranier, donc là, aujourd'hui, logiquement, ça devrait être Harold Barbet.
Pas aujourd'hui, mais bientôt, ça arrivera, promis Harold. Non, je vous présente Lauren Groff. Elle a 46 ans, elle est américaine, et c'est l'une des figures majeures de la littérature américaine aujourd'hui, l'une des romancières préférées de Barack Obama. Lauren Groff se fait connaître en 2015 avec son roman Furies, une histoire d'amour entre deux personnages, Mathilde et Lottie, parfait sous tout rapport, mais qui cache des secrets. Alors, dit comme ça, l'histoire semble ne rien avoir de très original, mais la particularité de Furies, c'est sa narration. Car on suit les deux points de vue des personnages. Donc on revit certaines mêmes scènes, mais du point de vue de l'autre. Donc par exemple, s'il y a une dispute, bah on voit le point de vue de Mathilde, et après le point de vue de Lottie, la scène n'est pas la même. Du coup, on comprend leur psychologie. C'est le même principe que l'on retrouve dans la série The Affair, Golden Globe de la meilleure série dramatique en 2015. Depuis, Lauren Groff a sorti deux autres best-sellers, Matrix et Les Terres Indomptées. En 2024, elle a été élue parmi les personnes les plus influentes par le Time. Et ce n'est pas dû qu'à sa carrière de romancière. Lauren Groff est aussi très engagée politiquement, notamment contre les book bans. Elle habite en Floride, l'un des états les plus républicains, et elle a voulu riposter contre cette censure. Du coup, en 2024, elle a ouvert avec son mari une librairie indépendante dans la ville de Gainesville, où elle vit depuis plus de 20 ans. Elle s'appelle The Lynx, un jeu de mots avec le lynx, l'animal féroce, et lynx, évidemment, qui veut dire lien en anglais. Groff veut que sa librairie soit un espace libre d'accès à la littérature, en particulier aux livres ciblés par la censure dans les manuels scolaires en Floride, qui ciblent principalement les sujets LGBT, QIA+. On y trouve des auteurs comme Margaret Atwood, Toni Morrison, James Baldwin, Sherman Alexie, William Shakespeare et beaucoup, beaucoup de livres pour les enfants. Sa librairie a été un succès immédiat. Elle raconte à Télérama que plus de 3000 personnes ont assisté à l'ouverture et la réélection de Donald Trump ne lui fait pas peur, en tout cas pour le moment. Elle dit qu'elle est prête à aller en prison plutôt que quelqu'un comme Donald Trump l'oblige à fermer sa librairie. Elle n'a pas peur des républicains. Plus qu'une simple librairie, The Lynx est devenu un symbole militant et une safe place où plusieurs groupes de discussion prennent place tous les mois. Des associations queer, des écrivains engagés, des enseignants se succèdent aussi pour militer contre le pouvoir en place et la politique répressive qui est en train de faire beaucoup de victimes.
Merci Manon. Ludivine Gilly, on sait si ce backlash littéraire, il incite comme ça des gens à résister, à lancer des librairies alternatives. On sait ce qui se passe, s'il se passe quelque chose comme ça aux États-Unis.
Alors encore une fois, c'est toujours difficile d'avoir une vision d'ensemble. On sait que des initiatives ici et là sont lancées par des auteurs, par des associations, alors par des associations de défense de la liberté d'expression par exemple. Vous avez une association qui s'appelle Pen America qui milite depuis des décennies contre l'interdiction des livres. Vous avez l'association des bibliothèques ALA, l'association des bibliothèques américaines, qui également publie des statistiques, suit ces sujets-là. Et vous avez ensuite ponctuellement des initiatives lancées. Je parlais de l'école navale aux États-Unis. Elle est située dans le Maryland, à Annapolis, juste après l'annonce de la suspension de 381 livres dans cette école. Des citoyens de la ville d'Annapolis se sont mobilisés pour rendre accès
à tous ces livres précisément.
Voilà, exactement.
Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël sur France Inter.
Chaque jour qui passe, chaque déjeuner d'équipe au Blériot nous apporte de nouveaux éléments accablants dans ce qu'on appelle désormais le dossier courage. Un garçon dont on pressentait déjà que la vie était triste. Mais à ce point, c'est proprement terrifiant. Puisqu'en effet, hier midi, alors qu'il venait déjà de se ruer sur une asperge dans l'assiette de Marie, qu'il a englouti rageusement comme un animal qui n'aurait pas mangé depuis très longtemps. Après donc déjà ce premier moment de gêne assez intense, Pierre a eu cette phrase qui résonne encore dans nos oreilles tellement elle témoigne du vide de sa vie intérieure. Je cite « Oh !» L'étoile est tombée dans les 12 coups de midi. Comment quelqu'un pouvait-il recevoir en 2025 une notification concernant un événement qui s'était produit dans les 12 coups de midi? L'explication est encore plus triste. Pierre fait partie des rares personnes à envoyer un ou deux durant les matchs de foot de TF1 pour espérer gagner 100 000 euros.
Bah oui.
Qui a gagné la Coupe du Monde 98? La France tapait 1 ou le Paraguay tapait 2? Et Pierre, il est là. 1-1, j'ai la réponse. Bonjour Pierre Courade.
C'était pas simple comme question.
Effectivement. Bonjour, Mathieu. Pierre, bonjour, il vous reste 30 secondes, faites avec pour votre petit carnet.
Bah, merci Mathieu. Mathieu, hein, vous me sucrez 30 secondes de chronique le jour où Cyril me bannit du groupe WhatsApp de l'émission. Sachant que précisément, on vient de parler de la censure des livres dans l'Amérique de Trump et que lundi, on parlera des purges de Mélenchon. On peut vraiment dire que Zoom Zoom Zen, c'est l'émission dans l'air du temps. Et le fond de l'air du temps. Le fond de l'air du temps est frais en ce moment, surtout aux États-Unis où plusieurs milliers de livres sont aujourd'hui bannis des bibliothèques scolaires. C'est ce qu'on appelle le phénomène Book Bans, un mouvement soutenu par des militants ultra-conservateurs qui, sous couvert de protéger les enfants, font une véritable chasse aux sorcières des auteurs et des livres jugés inadéquats. Parmi eux, des titres qui évoquent les questions liées aux minorités, au genre, aux droits LGBT et tout ce qui touche de près ou de loin au sexe. Ainsi, le journal d'Anne Frank est banni parce que la jeune femme y parle de la découverte de son corps. On touche au ridicule. Pour l'historienne spécialiste des États-Unis Ludivine Gilly, qui était notre invitée, c'est une véritable guerre culturelle qui est lancée aux États-Unis avec la bénédiction de Donald Trump. Les livres ne sont pas introuvables, mais peuvent être très difficilement trouvables dans certains États ou dans certains districts scolaires. Ce sont des commissions de citoyens élus qui décident. Les Américains eux-mêmes sont encouragés à dénoncer des ouvrages qu'ils jugent inappropriés. Cyril a déjà demandé sa green card.
Merci Cyril, vous êtes peut-être réintégré finalement sur le groupe WhatsApp de l'équipe. Hein, Cyril ?
On verra.
Très bien.
On verra.
Comme vous venez de faire une minute.
Merci beaucoup Pierre. Il arrive depuis peu à lire un livre sans avoir besoin de suivre les mots avec son index. Félicitations et bonjour Harold Barbet.
Alors, ne vous en déplaise, moi je trouve le processus de bannissement des livres dans les écoles fascinant. On voit les mouvements de droits parentaux investir les conseils scolaires et interdire les livres. Certains parents n'ont même pas lu les livres qu'ils décident de bannir. Genre, bannir un livre qu'on n'a pas lu, c'est à peu près aussi con que de s'inscrire à la natation synchronisée quand on ne sait pas nager. Ils ont décidé de bannir les livres quand ils se sont rendus compte, coincés avec leurs enfants pendant le confinement, qu'ils n'aimaient pas ce qu'on leur faisait lire. C'est-à-dire qu'au lieu de se remettre en question et de réaliser qu'ils n'avaient jamais aidé leurs enfants à faire leurs devoirs auparavant, eux, ils ont conclu qu'il faut brûler les livres. C'est une façon de penser, hein, pourquoi pas. Oh non, mon réveil n'a pas sonné ce matin. Bon, bah, je vais aller égorger le coq du voisin. Hein. Et ce qu'il y a de presque magique, c'est que certains parents du conseil scolaire ne sont même pas parents. Genre, mais qui fait ça? Qui se fait élire au conseil des parents alors que tu n'as pas d'enfant? C'est comme traîner avec des addicts au crack alors que t'es sobre. C'est écrire un livre sur l'humilité et le signer Nicolas Bedos. Ça n'a pas de sens de faire ça. Vous n'avez pas les armes pour défendre de tels sujets. Alors, à la tête de ces mouvements, on l'a vu, on retrouve les Moms for Liberty. Rien à voir avec les MILF. Moms I'd like to fuck, catégorie de recherche numéro 1 de Quentin sur Internet. Et elles ont ce paradoxe d'être à la fois contre l'avortement, mais d'être en même temps un fantastique contraceptif. Car les rencontrer coupe toute envie de procréation. À la tête des Moms for Liberty, on retrouve Tiffany Justice. Alors, avec un nom comme ça, c'est vrai que la tentation peut être grande de se moquer des Américains. Mais croyez-moi, il y a forcément quelque part en France une Stéphanie procès-verbale prête à bondir pour imposer sa façon de penser. Elles ont quand même réussi à bannir Harry Potter car trop magique. À quel moment tu conclus que Harry Potter est trop magique? Quand Hermione utilise le sort de Oculus Reparo sur les lunettes d'Harry, c'est pas comme si d'un seul coup elle lui filait une érection de 27 cm. Bon, Oculus Reparo. Non. En même temps, je comprends la tentation d'interdire. Si je pouvais interdire tout ce qui m'énerve, moi. Les gens qui mâchent la bouche ouverte, les mecs en jogging qui puent la sueur alors qu'ils font jamais de sport, les gens qui marchent en zigzag dans la rue que t'arrives pas à dépasser. Oui. Bien sûr que je peux comprendre la haine de l'autre, mais les livres, non! Moi, les seuls livres que je jette sans les lire, ce sont les notices d'utilisation. À peine sorti de la boîte, allez hop, ça dégage. Eh ben, est-ce que j'arrive à m'en sortir sans la notice? Absolument pas. Deux jours après, j'ai récité la totalité des insultes de la planète et j'ai failli divorcer 3 fois. Vous saviez que la notice d'utilisation a fait historiquement son apparition après la Seconde Guerre mondiale? Comme par hasard, de là à penser que le plus gros conflit armé de l'histoire doit son origine à un mec qui n'a pas réussi à installer son support à papier toilette mural, il n'y a qu'un pas, quoi. Et qu'est-ce que cette anecdote nous raconte? C'est que l'être humain est beaucoup trop bête pour s'en sortir et progresser sans notice d'utilisation. On parle quand même d'une espèce capable d'écrire son prénom avec son propre caca dans les sanitaires d'air d'autoroute. Non. On bannit des livres qui racontent ce que le genre humain a pu faire de pire. L'Holocauste, l'esclavage, la guerre. Comment on peut espérer un meilleur futur et ne pas répéter les mêmes erreurs si l'on n'apprend pas aux nouvelles générations ce qui s'est passé? C'est exactement ce que nous enseignent les patchs anti-herpès. Ce n'est pas parce que tu caches que ça n'existe pas. Et pour finir, j'ai envie de citer Matt Stone et Trey Parker, auteur américain de génie. Il n'y a pas de questions ou de réflexions stupides. Il n'y a que des gens stupides.
Merci Harold Barbet. Et vous avez mis le doigt sur le fléau de notre époque, les gens qui zigzaguent dans la rue et que tu peux pas dépasser. On vous retrouvera le siècle prochain dans les livres d'histoire mentionnant le meilleur humoriste de tous les temps, mais dans un futur beaucoup plus proche, tous les mercredis au théâtre Le Métropole à Paris, le 13 mai à Arras et du 15 au 17 mai à Mulhouse. Une mini... résidence à Mulhouse.
Voilà, je vais être puni.
Non, la semaine prochaine dans Zoom Zoom Zen, évidemment. Merci Ludivine, Julie de nous avoir permis de mieux cerner ce phénomène des book bans qui sévit aux États-Unis. Merci beaucoup. Zoom Zoom Zen.